émission de Jean-Paul Mira avec à la technique Jean-Louis Arzac. Bapla, une émission qui vous parle de votre santé vue sur tous les angles, à la fois les médecines, mais aussi l'environnement, la diététique, l'hygiène de vie et puis toutes les techniques qu'on appelle alternatives, naturelles, et il y a bien d'autres noms. Aujourd'hui, nous recevons
Raymond Montercy.
Bonjour Raymond.
Bonjour Jean-Paul.
Alors avant de commencer avec Raymond Montercy, vous savez que j'ai toujours un petit billet d'humeur et je voudrais vous parler aujourd'hui du cancérologue Daniel Serin pour faire réponse à la pétition qui est sortie il y a maintenant 2 mois par 140 médecins qui indiquaient que toutes les médecines alternatives, naturelles, l'homéopathie, la naturopathie, également tout ce qui va être le magnétisme, etc., étaient des médecines placebo qui ne servaient absolument à rien et qu'il fallait mieux les interdire que de les laisser pratiquer par des charlatans. À cette première pétition, eh bien, certains médecins ont répondu et ils ont fait convoquer par le Conseil de l'Ordre les représentants de cette pétition de 140 médecins. Alors ces médecins sont des médecins qui pratiquent avec un diplôme d'État de la médecine en France, de l'acupuncture, mais également de l'homéopathie, de la naturopathie, également certains font de la diététique, pour expliquer que eux, ça faisait un moment qu'ils l'utilisaient et qu'ils avaient des résultats pour soigner leurs patients en complément de la médecine occidentale. Alors le cancérologue Daniel Serin vient se rajouter à ça parce qu'il dit ça fait près de 30 ans qu'il soigne des cancers et il arrive à faire très clairement la différence entre les gens qui se font accompagner par toutes ces médecine dite parallèle, et il dit je dois reconnaître qu'il y a une vraie différence, il y a des gens qui font vraiment face au cancer, se battent et s'en sortent, et si ils ont besoin de ce type de médecine pour pouvoir faire face à leur maladie et s'en sortir, ben ça c'est un fait réel et il faut le prendre en compte. Je remercie le cancérologue Daniel Serin pour son ouverture d'esprit, parce que le monde n'est pas un monde fermé, mais c'est un monde ouvert, et il faut savoir regarder, écouter, prendre en considération et accepter la réalité. Donc aujourd'hui, nous recevons Raymond Montercy, qui voulait déjà prendre la parole. Raymond, on va diviser cette émission en 3 parties. La première, où nous allons faire connaissance avec ta vie. La deuxième, où nous allons faire connaissance avec la géobiologie, qui est le thème de l'émission, pour que nos auditeurs puissent comprendre un peu ce qu'il y a derrière la géobiologie, ce qu'on peut en attendre et ce qu'on peut en faire de façon raisonnable. Et la dernière partie, on abordera les questions ou les sujets que nous n'aurons pas abordés pendant les 2 premières parties et que tu jugerais nécessaire de parler. Et on essaiera de faire quelques conseils de lecture ou de films ou de documentaires ou d'événements qui vont se passer prochainement pour les amener à continuer le chemin dont nous aurons fait couvrir très petitement la porte aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il est indiscret, Raymond, de te demander quand tu es né ? De te demander, il y a un petit problème de son, de te demander quand est-ce que tu es né ?
Oula, longue histoire, en 41. Ouais, voilà, juste au moment de la guerre, quoi, tout compte fait, voilà. Juste au moment de la guerre, voilà. Ouais. Voilà. Et c'est là que je suis né, ici dans la région, je suis né à Carbonne, à Carbonne, dans la Haute-Garonne. Voilà. Et après, je ne suis plus revenu dans cette ville sauf il n'y a pas très longtemps. Voilà. Je suis né, en fait, dans une clinique clandestine.
Ah, c'est voilà. Joli, ça.
On était en pleine guerre. Ma mère était poursuivie par la Gestapo. Donc, il a bien fallu qu'elle se cache. 6 mois avant d'accoucher, voilà, elle est allée dans cette clinique, ce qui fait qu'elle a aidé en même temps le personnel de la clinique. Et voilà, elle a été protégée. Voilà, voilà comment je suis né.
Alors, Montercy, c'est un nom français, c'est un nom d'ailleurs. Est-ce qu'il veut dire quelque chose, ce nom, d'abord?
Oui, en réalité, c'est un nom double. Disons qu'il est espagnol comme nom. Voilà, ça s'appelle Monterrey, au démarrage, le nom espagnol. C'est la montagne du roi, ou le mont royal, comme on voudra. Ouf, c'est énorme.
Tu es fils de roi?
Non, sûrement pas. Mais bon... ça ne m'empêche pas de le respecter, quoi qu'il en soit. Voilà. Et mon père biologique, était espagnol, parce que lui aussi, il a disparu pendant la guerre. Voilà. Il était espagnol, il était venu ici, dans le sud-ouest, pour s'occuper des maquis, pour travailler avec les maquis, sous un autre nom, bien entendu, comme toujours pendant la guerre, il y avait des pseudos qui... on essayait de se cacher au maximum, quoi. Voilà. Alors, en fait, j'ai failli ne pas exister parce que j'ai des noms d'emprunt chaque fois. Non, ceux-là, ce sont les noms authentiques. Et quand, dans l'histoire, quand j'ai refait remonter l'histoire, je me suis aperçu que les Monterrey devenaient des Montercy lorsqu'ils étaient en France. Parce qu'ils sont venus aider le roi, Louis XIV, à l'époque, ils sont venus aider Louis XIV, lui prêter main forte pour repousser les Hollandais en Belgique.
Pour bouter les Hollandais.
Ah ouais.
Mais ça veut dire donc qu'ils venaient juste de l'autre côté des Pyrénées, d'Aragon par exemple, ou de Barcelone, ou est-ce qu'ils venaient de plus
voilà,
loin?
Barcelone.
Est-ce qu'ils venaient de plus loin?
Ouais.
Parce que je crois qu'il y a un château de Monterrey en Galice, au fin fond de...
Exactement.
La... Aussi, hein, c'est ça.
Voilà, c'est celui-là. Et ce château de Monterrey qui est réputé pour... c'est un château très simple, hein, tout compte fait, mais c'était la racine familiale qui se trouvait là.
Bon.
Voilà, donc...
Okay, donc on verra, en parlant de géobiologie, si tu as pu faire quelque chose à cet endroit-là. Alors, du moment où tu es né jusqu'à tes 18 ans, disons, qu'est-ce qui s'est passé de particulier dans ta vie?
Dans ma vie, oula,
De la naissance à 18 ans, hein?
Oui, oui, il m'a fait beaucoup de choses déjà. D'abord... J'ai fait un enseignement tout simple à l'école communale à proximité de Toulouse, à Balma, parce que j'avais des personnes qui me regardaient, qui m'élevaient, qui m'avaient à ce moment-là placé là, tout simplement parce que c'était là, on faisait comme ça. Et ensuite, en adolescence, vers 15 ans par là, parce que j'avais passé, comme tout le monde à l'époque, le certificat d'études, on passait, c'était connu. Mais après, j'avais poussé un peu plus loin, en passant le brevet et bien d'autres choses. Et je suis rentré, je suis allé chez les frères. Voilà, chez les jésuites. Voilà, j'ai fait les jésuites et les dominicains, bon, d'accord. Mais c'était un enseignement un peu plus tenu. On m'avait mis là parce qu'on pouvait me cadrer comme ça. Voilà.
Donc, je vais essayer de te cadrer dans cette émission
Oui,
vas-y, continue, excuse-moi.
Donc, j'ai été là avec ces gens-là. Je ne regrette pas parce qu'ils m'ont donné un enseignement remarquable. Là, j'ai fait un brevet professionnel de dessin. D'abord, c'est la première des choses. J'ai passé pas mal de CAP à l'époque. Bon, peu importe, ça, c'était pour me sécuriser, pour me renforcer dans ma destination, dans ce que je voulais faire. C'est des petits outils supplémentaires que j'avais créés. Et après ça, j'ai passé le bac technique, bien entendu. Et là, je suis parti. Après, je suis parti à l'armée.
Alors, c'est-à-dire, tu as eu un diplôme dans quoi, alors?
Alors, j'ai eu le diplôme de dessinateur industriel.
D'accord.
Dessinateur industriel. Et après, j'ai enseigné même le dessin pendant pas mal de temps.
Oui, on verra que ce goût pour le dessin industriel va te suivre.
Eh bien, ça va, ouais, effectivement, ça va m'aider par la suite dans mon cheminement. Et les formations que j'ai eues en dessin et que j'ai développées d'ailleurs par la suite ont fait que j'avais un prof qui avait très bien compris. Je suis arrivé en transition dans ses cours chez les frères parce que les autres avaient déjà commencé. Et le prof qui était là, qui n'est plus là, M. Barthès, d'ailleurs, que j'ai beaucoup apprécié à l'époque, m'avait dit « Travaille, de toute façon, tu y arriveras ». Et c'est vrai que je suis arrivé, puisqu'il m'a poussé dans le dessin, quoi. Voilà, et c'est resté maintenant. Après, maintenant, c'est ad vitam aeternam. Hein.
Donc après, le service militaire, tu l'as fait?
Oui, alors le service militaire, je l'ai fait à 7, belle cité crétoise, à 7. Et là, j'ai travaillé, j'étais radariste. Voilà. Je préparais déjà mon concours en école. Je voulais rentrer à l'ENSET et j'y rentrerai par la suite en tant que technicien spécialisé. Voilà. Et il y a toujours, c'est un centre du centre de l'ENSET. Je suis passé ensuite au LAS, au laboratoire automatique spatial. Voilà, toujours technicien. J'ai voulu garder cette partie-là parce qu'on est dans le pratique. Voilà, c'est ce qui m'intéressait, c'est le côté pratique surtout.
Donc à l'armée, tu as été dans les transmissions, je crois.
Oui, c'est ça.
Tu étais déjà également quelque chose de pratique, tu sais
déjà tout.
Oui. Ah, mais j'essaye de m'informer, j'ai regardé sur Internet.
Ouais. J'étais dans les trans, ouais, effectivement. Ouais. Et là, j'étais passionné par ça parce que là, j'avais des matériels... auquel j'avais d'affaires et qui me plaisait beaucoup. Et voilà comment j'ai fait ma progression. Ça m'a permis de préparer le concours que j'avais pour entrer à l'ENSET et ainsi de suite.
D'accord. Voilà. Donc tu vas à l'ENSET. Tu es resté à l'ENSET
Alors je passe dans le laboratoire de recherche après.
D'accord.
Voilà. Je suis passé d'abord rue Camichal, l'ENSET rue Camichal, où j'étais passé dans le centre Toulouse. Je suis passé à l'ENSET dans cette phase-là, où j'étais toujours pareil technicien. Et à ce moment-là, l'ENSET, ce labo, s'apprêtait à déménager. Il a déménagé et nous sommes passés au LAS, au laboratoire d'automatique spatiale à Rangueil, où à ce moment-là, on a eu affaire à bien d'autres technologies et apprentissages. Donc j'ai participé, bien entendu, à la fabrication de semi-conducteurs, ainsi de suite. Voilà, c'est surtout ça qui m'avait le plus motivé. Voilà.
Donc tu quittes à un moment donné l'ENSET alors ?
Ouais.
Et qu'est-ce que tu fais ?
Alors après, je suis passé dans le public directement. Je suis rentré dans une société qui diffusait des matériels électroacoustiques.
D'accord. Là tu rentres toujours tu continues dans le pratique. Ce sont des outils, voilà. Et tu vas t'intéresser à ces outils.
Et c'était l'acoustique. Alors j'ai commencé dans cette société-là, on fabriquait des appareils spéciaux pour les grandes surfaces et pour, disons, des bâtiments qu'il était difficile de sonoriser.
D'accord, déjà. C'est bien.
Voilà.
Déjà les ondes.
Oui, mais il y avait un moment déjà que je m'intéressais, en dehors bien entendu de mon travail professionnel, je m'intéressais surtout à l'acoustique. Voilà, et aux vases acoustiques. Alors, par exemple, ce sont des vases que personne pratiquement n'en parle. Ce sont des cavités qui sont créées dans les murs, dans lesquelles on loge dans les murs, bien entendu, d'une chapelle ou d'une église. Et on loge à l'intérieur de cette cavité un vase réel, quoi, avec une embouchure, un vase fermé, un vase oblong réel. Et c'est l'embouchure qui va être déterminante et qui va créer à ce moment-là des harmoniques qui vont permettre d'arrêter les harmoniques qui vont se générer dans l'église elle-même.
D'accord. Donc c'est pour...
Déjà, on connaissait ça au 12e.
Au 12e. Et c'est fait en quoi ces vases
C'est des vases en terre, tout simplement.
En terre, oui.
Ce qui va être déterminant, c'est le volume du vase et l'embouchure.
D'accord.
Le diamètre de l'embouchure. Un rapport entre les deux qui fait qu'à un moment donné, ça élimine les harmoniques. Voilà.
D'accord.
Sur un fa dièse ou autre chose, par exemple, on va faire tomber l'harmonique et ça fait qu'une meilleure acoustique, un meilleur entendement dans le cadre,
d'accord,
de l'église.
Et s'il y a des gens qui chantent faux, ça régule aussi ou pas ?
Oui, ça régule.
Ah, également.
Les Romains utilisaient déjà cela. On appelait ça des échéas. Et ces échéas étaient placés sur des supports en bois orientables, des échéas, c'était comme de grosses amphores, tu veux, qui avaient à peu près 1,50 m à 2 mètres de hauteur, hein, quand
oui,
même, pareil. Ils plaçaient ça, donc ça pesait déjà lourd, tout en terre, toujours pas en terre cuite. Hein. On plaçait les échéas sur des supports orientables, et ça permettait de régler effectivement les systèmes de résonance dans l'arène ou l'endroit où s'effectuaient effectivement les jeux, et ainsi de suite.
Donc déjà, un travail avec des outils qui ont un lien donc avec les ondes et avec le monde qui est autour de nous, mais également un lien avec l'histoire.
Ouais.
Hein, c'est bien. Donc, dans cette société, tu y restes longtemps ou tu passes ailleurs et en
Je passe
t'intéressant?
ailleurs, évidemment. J'ai passé ailleurs et ailleurs, c'était de la vente de composants électroniques.
D'accord.
Voilà, des composants professionnels, comme on dirait maintenant, top niveau, mais c'est vrai, avec National Semiconductor. Et là, je vends des composants de très belle qualité. Alors, c'est ce que je voulais, toujours essayer d'aller vers l'excellence. Pas être dans mais d'y aller
D'y
vers.
aller, oui.
Voilà.
Tendre vers.
Ouais, c'est ce que disait Churchill, d'ailleurs. Il y a
D'accord.
quelque chose qui m'intéresse, c'est l'excellence dans la vie. Voilà.
Tu m'avais parlé aussi que tu as fait un petit tour dans une société de lunetterie aussi.
Ouais. Alors, à la suite de ça, je me suis retrouvé, la société dans laquelle j'étais, en acoustique, là, a carrément plongé, a eu des problèmes. Hein. Bon, mais d'accord. Et je me suis retrouvé dans une société, enfin, j'ai fait des offres d'emploi, comme tout le monde, hein. Et je suis tombé sur une société de lunetterie. Voilà, qui m'a embauché, ça m'a permis d'assurer le quotidien. Ben, c'est un minimum. Mais là, j'ai bien travaillé parce que nous, c'est une société performante. Je crois qu'elle existe toujours d'ailleurs. Mais là, j'ai appris surtout à avoir en premier lieu des lunettes, savoir comment on travaillait dans cette profession, quoi. Même si ce sont des lunettes, ce n'est pas un objet simple. Est un objet qui est drôlement réfléchi. Et quand on sait comment on manipule les lunettes, elles sont solides la plupart du temps. Mais vraiment. Voilà. Voilà où ça en est. Alors j'ai fait de la lunetterie et après j'ai fait un peu d'appareillage, disons, optique, pour les tests de vision optique, pour ajuster justement les lunettes. Et puis la société ayant bien marchant bien, le fabricant d'optique a repris. A remis ses propres représentants sur le circuit, ça fait que je me suis retrouvé au chômage.
D'accord.
Bon, c'est pas grave, ça m'a appris un peu à travailler. La première année, c'est qu'entre les deux, j'ai rencontré une personne qui fabriquait des violons. Oui, tu vois, ça va. Et de nouveau, j'étais dans l'acoustique. Voilà. Donc, je me suis intéressé au violon, à la technique violon. Nous y reviendrons tout à l'heure, de toute
On y
façon.
reviendra tout à l'heure, d'accord. Bon, donc tu te retrouves au chômage et là, qu'est-ce que tu fais?
Alors là, quand je
C'est
me.
en 85, je crois, à peu près.
Oui, c'est ça. Alors, je suis resté un petit moment au chômage et là, j'ai créé ma propre société. Voilà.
Alors, propre société de quoi?
Traitant pour l'environnement. Ben, j'étais là-dedans. Donc j'avais connu auparavant un médecin qui s'appelait Henri Quiquendone, qui m'avait pas mal formé là-dessus, et que tous les week-ends, en principe, je faisais un stage.
D'accord.
J'apprenais, quoi,
Tu
on va dire.
apprenais.
Et après, à mon tour, j'ai enseigné.
D'accord.
Voilà, j'ai toujours cette fibre d'enseignement en moi. Voilà, j'ai fait ça. Et donc, c'était dans les époques, finalement, après 75, là, jusqu'à 84.
D'accord.
Ouais, j'ai enseigné. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que je commençais à travailler en géobiologie.
Géobiologie, ça y est.
Ouais, le premier, j'ai eu.
Le mot arrive.
J'ai eu comme premier, alors je vais vous décrire le mot après. Mais pour les premiers cours, je les ai faits avec Rémi Alexandre, qui à l'époque avait fait un bouquin, là, Votre lit est-il à la bonne place? Ça avait fait un succès fou parce que personne n'en parlait. Et lui, le premier à écrire là-dessus. Et après, on s'est rabattu sur les Allemands qui ont commencé aussi à arriver avec leurs chars d'assaut, disons, techniques, très fort, hein, très très bien. Et voilà, on y est toujours d'ailleurs. Et voilà où nous en sommes arrivés. Voilà, tu vois, tout ce processus. Quand j'ai eu la société.
Oui. Tu fais des rencontres importantes aussi, je crois.
Oui, j'en ai eu beaucoup de rencontres importantes. Mais cette société-là, quand même, ne marchait pas trop bien. Donc, j'ai rencontré donc, à ce moment-là d'autres personnes qui travaillaient en géobio. On a créé une première société à Toulouse, justement, où il y avait, on était un peu trop nombreux, on était 8 personnes dans cette SARL. Et on s'occupait uniquement de géobio,
D'accord, de
un peu
géobiologie.
naissante. Et
Oui.
je donnais des cours ici à proximité de Toulouse, là. Des cours
D'accord.
qui marchaient très bien, il y avait pas mal de monde.
OK. lorsqu'on a préparé cette émission, tu m'as parlé d'un homme qui était important pour toi, qui était Jacques Rabastens.
Ah oui, mais ça j'avais connu en 75, lui au cours d'un congrès. Donc, au cours d'un congrès, c'est un homme qui a fait tout un travail sur les formes. Expliquer ce que c'est qu'une forme, comment une forme peut être intervenante dans un milieu, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme action dans un milieu. Et donc avec le groupe Ravatin, c'était Arcal Totaris, le groupe.
D'accord.
Un groupe aussi qui était rattaché aux États-Unis avec d'autres chercheurs. Et là, donc j'ai beaucoup travaillé parce que j'ai fait des prototypes, j'ai fabriqué des prototypes de formes pour qu'on essaye de comprendre comment les formes se comportaient. Alors, avec les polyèdres, avec bien d'autres formes.
Quand tu dis travail sur la forme, c'est quoi ? Tu crées des objets, tu crées...
Je crée des objets, absolument.
Des objets et,
oui, oui.
Mais tu les crées en voulant étudier la forme, en réalité, tu crées un objet dont tu crées la forme, c'est
oui,
ça ?
Voilà.
Et après, là-dessus, tu fais des tests.
Oui, c'est ça. Après, on fait des tests. Ensuite, on a fait des tests. Comme j'avais l'avantage de savoir travailler... pratiquement toutes les machines, le tour, les fraiseuses, toutes ces machines d'atelier qui sont importantes pour créer, ben j'ai continué. Voilà, j'ai continué à me performer dans ce domaine-là. Voilà. Et ça durera, les créations de prototypes dureront jusqu'en 1990.
D'accord.
Ouais, ça fera pas mal.
Donc, après, tu fais tout ça. Tu reviens à... Tu recrées une société
Oui, je recrée une société, effectivement. Voilà. J'en ai recréé plusieurs sociétés, mais toujours dans la... avec des critères d'application, de choix pour la géobiologie. Toujours.
Ta ligne de conduite a été la géobiologie, dont on va en parler dans quelques minutes. Après notre pause musique.
En fait, Je ne traitais pas comme ça, je parlais d'environnement immédiat.
C'est pour ça, parce que tu employes le mot environnement, alors que moi je parle géobiologie, donc il va falloir qu'on fasse le rapprochement, mais on démarrera, si tu veux, la deuxième partie de l'émission sur géobiologie, environnement, et tu essaieras de nous expliquer ça. Donc tu crées des sociétés de géobiologie, donc ce sont des sociétés de services en réalité.
Oui, exactement, c'est ça.
Alors, tu ne fais pas de production d'objets dans ces sociétés aussi ou pas ?
Je fabrique du matériel de détection. En ce moment-là, dans la deuxième société, je mets au point donc une chaîne de fabrication pour des antennes de détection, voilà, et d'autres matériels, voilà, un peu plus spécifiques, rattachés à la technique des formes. Avec des pendules. Alors, tout le monde n'aime pas, une fois de plus, n'aime pas le mot radiesthésie, mais ça dépend comment on l'utilise et comment, voilà, ce qu'on en fait, une fois de plus. Oh. Et là, j'ai fabriqué des pendules spéciaux qui sont brevetées d'ailleurs, qui n'ont jamais été recréées, qui permettent effectivement d'approcher cette technique qui est très peu connue tout quand tu fais des formes.
Oui, les formes, moi, je connaissais pas énormément. Mais pour toi, les formes font partie de la géobiologie ou est-ce que c'est les formes qui font partie de la géobiologie ?
Intégralement.
D'accord.
À tel point qu'il y a des géobiologues que je connais qui ne cherchent à un moment donné dans un appartement, mettons, dans une habitation, ils cherchent que sont les formes éventuellement défavorables, on va dire, aux échanges. Mais on parlera de tout ça parce que...
Oui, on va en parler
c'est
après.
Pas la forme, comme on dit. C'est plus complexe qu'il n'y paraît.
Bon, donc, tu es né en 1941 et tu continues à avoir une activité.
Oui, absolument.
Hein, parce que en principe, tu devrais être retraité, là.
Oui, je suis retraité parce que j'étais radioactif, c'est sûr. Bon, donc, non, c'est une blague, comme toujours.
Donc, qu'est-ce que tu fais pendant ta retraite, alors ?
Mais des essais, je continue toujours à fabriquer des objets et je fais des essais, des tests, ainsi de suite.
Voilà. Donc tu fais des essais, tu donnes, je crois, des cours de dessin aussi, puisque tu es resté fidèle.
Alors, justement, on va y venir. Ça va être pour moi, ça va être le gros changement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je travaille sur les formes, Je m'aperçois que les formes, il faut les cohérer. Et pour ça, il faut faire des plans, il faut faire des dessins. Il faut savoir ce qu'on fabrique. On ne fait pas ça au hasard.
Voilà, t'es l'as de la forme. Voilà, nous allons faire une pause, hein, parce que
j'ai
déjà dit beaucoup de choses. Donc, on va essayer maintenant de rentrer dans la géobiologie. Nous allons faire notre première pause musicale. Notre ami Raymond Montercy a choisi d'écouter une chanson béarnaise, parce que vous avez compris qu'il est des deux côtés, hein, il est des Pyrénées. Et nous allons écouter une chanson qui, en béarnais, s'appelle « L'oreille Artus », donc « Le roi Arthur ». On la lance. À tout à l'heure, Raymond. Merci Raymond pour cette musique que tu nous as amenée et qui nous fait bien plaisir d'écouter cet accent béarnais dans cette belle région d'Oc. Ouais. Raymond, on va attaquer maintenant la partie propre de la géobiologie. Enfin, alors, je vais te poser la question, c'est quoi la géobiologie et comment vas-tu m'en parler?
Ouais, Alors, il y a une définition officielle du CNRS là-dessus, mais je ne vous la donnerai pas parce qu'elle est complexe, quoi qu'il en soit. Mais c'est d'abord essayer de comprendre, en premier temps, de connaître les éléments qui constituent notre Terre. Et là, quand je parle des éléments, il y a tout là-dedans, c'est-à-dire aussi bien les éléments physico-chimiques que les éléments chimiques, les éléments, ensuite, tout ce qui concerne le son, tout ce qui va concerner à ce moment-là les formes, et surtout là, le gros morceau, on va le voir. Alors quand j'ai vu que ça représentait un panel énorme de, je dis bien énorme, finalement, de connaissances, j'ai toujours dit que la géobiologie était un liant entre les différentes connaissances des humains sur la Terre. La géobiologie est un liant entre les différentes...
C'est le lieu, alors est-ce que, si je dis c'est le lieu de rencontre entre toutes ces techniques...
Oui.
Que l'on va trouver dans la géobiologie et qui vont permettre aux gens d'approcher cet environnement, puisque l'homme est entre le ciel et la terre, ouais. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte.
Sauf que là, on regarde pratiquement dans un sens, comme je dis, il ne faut jamais oublier la participation des humains.
D'accord.
Qui, elle, est très complexe. Parce que ça va se situer sur les plans émotionnels, ça va se situer sur le plan de la perception des choses. Et là, on commence à rentrer dans un domaine extrêmement sensible qui n'est pas toujours reconnu, d'ailleurs, même par les scientifiques, mais ça, c'est pas très grave. Voilà, simplement parce que on l'aura pas, pour certains, on l'aura pas explicité exactement ce dont il s'agissait.
C'est alors, tout. Est-ce qu'il y a un point de départ à la géobiologie?
Oui, le point de départ est tout simple, se sentir bien.
Oui.
Non, mais c'est vrai, rire.
Mais encore.
Elle se sentirait bien dans un lieu.
Dans un lieu.
Ah, voilà. Donc, je rajoute le lieu maintenant.
Voilà. Le point de départ, il va y avoir les humains et le lieu.
Voilà, exactement.
Alors, tu travailles d'abord les humains, enfin, tu fais une approche des humains en premier ou tu fais une approche du lieu en premier?
En fait, c'est de l'éveiller. D'abord, l'écouter. La première chose, c'est l'écouter. Quand on...
Écouter qui, l'humain ou le lieu?
Les deux.
Les deux.
Alors, en premier lieu, c'est d'écouter donc lui-même, d'abord ce qu'il dit avoir ressenti, avoir vu, avoir senti, avoir donc entendu. Toutes ces choses-là sont importantes, vont prendre un caractère d'importance. Et quant au lieu, après, la visite du lieu va permettre de remarquer s'il y a... Il peut y avoir des défauts de construction, il peut y avoir des pollutions, il peut y avoir à ce moment-là nombre de paramètres qui sont interactifs avec la vie de la personne dans le lieu. Voilà, et c'est ça.
Tout à fait d'accord. Mais s'il y a des paramètres, ça veut dire que, avec les différents outils que tu connais, tu as la capacité de les mesurer, ces paramètres.
Exactement, en partie. On ne peut pas tout mesurer, bien entendu, mais oui. En partie, parce qu'il y a des choses qui sont non mesurables. D'ailleurs, c'est un petit peu le conflit qui existe par moment, pour certaines personnes, entre les scientifiques donc, et les géobiologues.
Tout à fait.
Voilà, oui, tout à fait. Ils prétendent.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des valeurs qui sont incontournables pour le scientifique et pour les géobiologues? C'est quoi les premières... Les premières mesures sur lesquelles tu t'appuies?
Si, absolument. Et même, je dirais que chaque jour, on trouve de nouvelles valeurs, tu vois. C'est une évolution qui se passe là. Voilà. Donc, si, ces valeurs existent, elles sont là. Par exemple, on a une valeur qu'on connaît très bien, qu'on peut utiliser dans ces domaines-là, c'est la valeur de la vibration de la Terre, par exemple.
Oui.
Le manteau terrestre, à la ceinture équatoriale, voilà. On prend l'équateur,
oui.
On prend un globe terrestre classique, on prend l'équateur, et bien cet équateur vibre en permanence, presque de façon régulière, j'ai dit, il y a une fourchette de vibration, mais il vibre à 47 Hz.
D'accord.
C'est la fréquence la plus basse. Et très curieusement, c'est la fréquence aussi la plus basse que notre oreille peut entendre.
D'accord.
Comme par hasard, on est conditionné par ça aussi.
Alors qu'est-ce que c'est qui l'a fait vibrer?
Oui.
Qu'est-ce que c'est qui l'a fait vibrer? Elle vibre.
La rotation de la Terre.
Rien que la rotation de la Terre.
Ben oui, la Terre avance avec un axe d'obliquité. Sur un axe oblique, elle avance en rotation.
Oui.
Et le seul fait d'avancer comme ça en rotation, automatiquement, ça engendre la vibration.
D'accord. Le mouvement.
Une vibration non très basse quand même.
D'accord. Ok. Ce qui veut dire alors que si on prend une longitude et une latitude, on va avoir un taux de vibration qui va changer suivant.
Voilà, j'allais y venir. Non, mais c'est bien. C'est bien.
J'essaie au contraire, de savoir si j'ai compris.
Ça prouve que tu as compris. Non, simplement, lorsqu'on change de latitude, ça fait du 47 Hz à l'équateur.
Oui.
Quand on va remonter vers le nord ou redescendre vers le sud, de l'autre côté, asymétrique,
oui,
on va voir une variable qui va être introduite dans cette vitesse qui est égale à il y a une formule mathématique toute simple. Moi, je vous la passe. Voilà. Mais qui permet de le calculer quand même, qui permet de calculer effectivement, en fonction de la latitude, sur quelle fréquence on se trouve. Voilà. Et plus on monte vers le nord, ou descend vers le sud, plus la fréquence augmente.
Plus la fréquence augmente.
Voilà.
Et donc, c'est quoi la fréquence des pôles?
Alors,
à peu près, je veux
dire. On a une zone où il va y avoir une fréquence, mais c'est un peu confus, là. Elle est très haute, la fréquence. On est déjà à 15 000 Hz au niveau de l'équateur polaire. Et donc,
C'est plus mesurable de façon précise.
Je n'ai pas tout donné, mais ce n'est plus mesurable de la même façon. Voilà.
D'accord.
C'est pour ça que passer le cercle polaire, on va dire stop pour la géobiologie, si on peut dire.
On dit stop. Donc, ce qui veut dire que la personne qui fait de la géobiologie va s'intéresser à la position de la latitude ou de la longitude, je ne sais pas, non, c'est la latitude plutôt.
Et oui.
De la latitude du lieu qu'il veut observer pour savoir quelles sont toutes les formes, tous les mouvements, puisque le mouvement est une forme alors.
Mais la longitude aussi est intéressante. Elle est utilisée, la longitude, certes pas tout le temps, mais par exemple, je vais vous donner un exemple très simple pour mieux faire comprendre. Les musulmans, par exemple, utilisent pas mal la longitude pour calculer ce qu'ils appellent la Qibla, qui est à partir d'une mosquée. On peut déterminer une direction actuellement. Donc, c'était au début vers Jérusalem, c'est qu'on se dirigeait. Voilà. Avec la longitude et la latitude, on a seulement le moyen d'orienter un bâtiment directement dans une direction donnée.
D'accord.
C'est important quand même.
Oui.
C'est pour ça que les croisés ne sont pas allés pour rien là-bas. Ils ont récupéré aussi le matériel permettant de le faire, entre autres, sûrement même. Et ça a permis comme ça d'être intervenant dans les abbayes et d'orienter les abbayes d'une certaine façon, ou du moins ce qu'on appelle la maison mère, mais les autres abbayes qui dépendaient de cette maison mère étaient toutes orientées en général d'une façon spécifique.
Alors quel est l'intérêt d'orienter des bâtiments vers un lieu précis? Est-ce que ça... Donc je comprends qu'il y a un taux vibratoire qui existe de par la longitude et la latitude. Et le fait d'orienter dans une direction donnée, qu'est-ce que ça apporte à ce bâtiment ou si, peut-être que ça n'apporte rien d'ailleurs.
Mais comme je dis toujours, c'est le téléphone sans facturation. Voilà, c'est pour m'amuser par une
fois, je
dis ça. Voilà, en fait, ça permet de connecter, on dirait maintenant, de connecter les bâtiments entre eux sur un plan subtil.
D'accord.
Plus particulièrement religieux pour certains. Puisque que ce soit la religion musulmane, les catholiques ou autres, ils savaient très bien faire ça. Ils savaient du moins très, très bien le faire. Et ça permettait comme ça d'avoir une liaison entre les bâtiments. Mais pas que ça. Les hommes habitant ces bâtiments, les humains habitant ces bâtiments, étaient aussi reliés de la même façon.
D'accord, donc il y avait de la télépathie, tu veux dire?
Oui, entre autres.
Entre autres. Et est-ce que le fait de relier... Alors, suivant où est le lieu vers lequel on se dirige, est-ce que c'est le même taux vibratoire, donc la même énergie qu'on trouve aux deux lieux, ou est-ce que les bâtiments, je vais dire des écoles qui se développent, s'enrichissent de l'énergie de la maison mère.
Ben, ça va dépendre aussi des personnes qui habitent ces bâtiments-là, mais effectivement, il peut y avoir un enrichissement. C'est incontestable.
D'accord. Donc, on a, puisque tu as parlé de mesures, donc on a au départ la longitude, la latitude qui nous donne déjà un taux énergétique, est-ce que je peux l'appeler comme ça ?
Oui, mais aussi non, une orientation. Parce que cette équipe-là, là, c'est un système d'orientation, uniquement d'orientation. Mais cette orientation, est de, la preuve, c'est de, pour tous, cette orientation est une orientation sacrée, telle qu'il
le voit. Oui, puisque les musulmans se tournent vers la Mecque.
Voilà.
En médecine chinoise, par exemple, tu te tournes au
bien. J'allais dire, en Chine, c'est pareil. Hein.
Tu te tournes, oui, dans le taoïsme, tu te tournes vers l'Est. Le point voilà. de départ, c'est l'Est. Pourquoi ? Parce que c'est le symbole du yang qui monte, etc. Je pourrais raconter un jour cette histoire, je pense que je la ferai. Mais effectivement, il y a ça. Alors, les catholiques étaient tournés vers Rome, vers Saint-Pierre, mais...
Ben, pas véritablement. On a toujours dit ça, se tourner vers l'Est, on a dit, bon, c'est là que ça marche, effectivement. Enfin, on s'aperçoit en faisant le travail, en faisant la recherche, qu'il y avait beaucoup d'orientations, pas forcément toutes vers l'Est.
D'accord.
Il y en a qui sont vraiment décalées. D'ailleurs, ce phénomène va se retrouver dans des civilisations très anciennes, comme que ce soit les Grecs ou même la civilisation des dolmens, par exemple, ouais. Ils ne sont pas tous orientés vers l'Est. Des études ont été faites là-dessus et on s'est aperçu donc, que les orientations pouvaient être à, mettons, 185 degrés, c'est ouais. le cas, oui, pour une, ce qui est énorme. 185 degrés nord.
Ouais.
Alors, quand je parle de nord, je parle du nord géographique.
D'accord.
Qu'on ne parle pas du nord de la boussole.
D'accord.
Le nord de la boussole a une dérive dans le temps. Mmh. Il n'est pas fiable, on ne peut pas se baser sur lui. Et ensuite, il a des à-coups. Par exemple, quand il y a le tsunami qui s'est déroulé, là, le nord géographique a pris un coup et s'est décalé de 7 degrés sur le moment.
Ouais.
Après, il est revenu progressivement, mais pas au même point de départ. Il n'avait pas la même valeur.
Alors, est-ce que ces changements de nord peuvent avoir des conséquences sur l'environnement sur la Terre ?
Absolument.
Est-ce que le réchauffement climatique peut, pour partie, être imputé à, à ce changement-là ?
Là, oui, il contribue de toute façon,
c'est sûr.
Il D'accord. contribue, mais je n'ai pas toutes les réponses. Là.
T'as pas toutes les réponses.
Ce n'est pas un secteur dans lequel je vais normalement, mais c'est non. bien. Mais je n'ai pas toutes les réponses. Mais il contribue incontestablement.
Tu iras travailler et tu reviendras nous expliquer ça.
Ouais.
Donc, on a longitude, latitude. Est-ce
ouais.
qu'il y a d'autres choses que l'on mesure ? Est-ce qu'il y a d'autres sources d'énergie propres au lieu ?
Ben, en Est-ce général, qu'il... le système... Le système de calcul que j'ai mis au point là, me permet, avec ces deux paramètres, latitude et longitude,
oui.
ça me permet d'en avoir plus de 45 autres paramètres
oui.
qui vont être, par exemple,
oui.
la mesure, connaître la mesure du lieu.
Oui.
Ce sont toutes des formules, là, bien entendu, appliquées, tenant compte toujours des valeurs terrestres.
Alors, quand tu dis d'avoir la mesure du lieu, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière la notion de mesure ? Parce que J'ai la localisation qui me donne un taux vibratoire.
Voilà.
Et toi, tu me dis qu'à partir de ça, je peux faire d'autres mesures. Mais c'est quoi ces autres mesures ?
Mais ces autres mesures, par exemple, je vais avoir une mesure qu'on va retrouver régulièrement sur le lieu par l'intermédiaire par plusieurs voies. La plus simple, c'est quand on fait le calcul. Donc, par exemple, c'est... Pour ceux qui aiment un peu les maths, mais ce n'est pas très compliqué. On fait ce qu'on appelle 10 fois le cosinus de la latitude. Et ça nous donne à ce moment-là,
oui.
la mesure, ça nous donne à ce moment-là une mesure, pour ici, par exemple, pour oui. Toulouse, la mesure du lieu est de 7,20 m. Grosso modo. Après, il y a une fourchette. Après, plus on va aller vers le nord, plus automatiquement, elle va se réduire. En allant vers le sud, elle va être plus grande, cette mesure. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que la mesure est différente dans tous les lieux sur la Terre, sur le globe terrestre.
Alors, moi je vais faire un lien avec ma chère médecine traditionnelle chinoise. Je viens de travailler sur des textes anciens où il parle, des textes qui datent de moins de 1000, moins de 1005 avant Jésus-Christ. Et il parle donc pour calculer... le calendrier énergétique.
Voilà.
Donc, ils parlent de la longitude à la latitude. Ils disent, il faut planter un bâton.
Voilà.
et en fonction de l'ombre du soleil, mesurer l'endroit de l'ombre au solstice d'été, parce qu'ils ont fait le constat qu'il y avait, c'était pas la même, les mêmes positions, et à partir de là, ils expliquent qu'ils arrivent à calculer également le lieu, enfin l'énergie du lieu, et à partir de là, en fonction de cette énergie, les risques de pathologie si l'homme n'est pas en harmonie avec cette énergie-là.
D'accord.
Donc c'est la même chose que tu me dis.
Pas tout à fait. Mais c'est la même chose. Non, c'est pas tout à fait la même chose, car là, toi tu me parles d'énergie, moi je parle de mesure. Donc ce sont deux choses différentes. Mais les voies sont similaires. On peut par le même procédé, effectivement, on peut obtenir tout cela. Oui. Quand on parle de mesure du lieu, c'est un contexte considérable. Au point de vue calcul d'une part, et ensuite en tant qu'outil lui-même, à la mesure du lieu, tu vois. Par exemple, tout à l'heure, tu viens de me dire, ils font le solstice d'été. Bon. Pourquoi ? Tout simplement parce que le solstice d'été offre une ombre très nette, l'ombre du solstice d'été, le jour du solstice d'été, l'ombre est très nette en général. Voilà. Alors qu'en hiver, elle est un peu floue. Il y a un pinceau, donc il n'y a pas de précision. Bien qu'elle ait été utilisée dans certains cas, mais rare en général. Les gars, avec seulement l'ombre du solstice d'été, on peut calculer à ce moment-là, c'est là que ça devient intéressant, on peut calculer un des premiers outils qui va permettre d'installer une maison, par exemple, ou un bâtiment.
Alors, ça serait, c'est quoi
si c'est, mais pas... c'est tout simple. Il suffit simplement de surveiller le lever du soleil le jour du solstice d'été. Le soleil va se lever à un endroit bien particulier. Oui. On le cale avec des jalons, simplement avec un jalon, simplement. D'accord. On se cale là-dessus. D'une part, le lever et ensuite le coucher.
D'accord.
Voilà. Donc, on a déjà deux positions.
Oui.
La première, déjà, le lever va se situer entre le nord géographique donc, et l'équinoxe.
Oui.
Pour ici, dans nos régions.
Dans nos régions.
Voilà. Et on va faire pareil pour l'hiver. À ce moment-là, le lever va se trouver, lui, par contre, entre l'équinoxe et carrément le sud, ou le midi. Moi, je préfère parler de midi solaire.
Oui.
Et ensuite, de l'autre côté, ça va être pareil. On va avoir un relevé. Voilà. Et quand on regarde, on a quatre jalons à ce moment-là qui marquent les positions solaires.
D'accord.
Et ces quatre jalons, c'est là que ça devient intéressant. C'est la première géométrie du lieu. Pardon.
Oui, ce qui veut dire que ça peut être les quatre angles du bâtiment qu'on va construire.
Par exemple.
Ou ça peut être une partie de la construction. Ça peut être, par exemple, le lieu où on va mettre l'hôtel.
Par exemple.
Il y a plein de choses comme ça.
D'autres paramètres intervenants sur le plan géométrique.
D'accord. Mais là, on a déjà, donc, je comprends maintenant, en faisant ça, on a défini une forme.
Oui, et c'est la forme qui est en correspondance avec le lieu.
Donc, si je fais le lien avec la médecine chinoise, ça veut dire que si quelqu'un qui vit dans une maison qui est orientée comme ça, il va profiter de toutes les énergies terrestres et du cosmos pour que son propre être, s'il est en harmonie avec, soit en bon état de santé, soit dans un équilibre.
Oui, mais je connais pas mal de géobiologues donc, pour les avoir formés, qui pratiquent cette méthode-là.
Oui.
Et en général, ils n'ont que de bons résultats. Par contre, elle paraît astreignante, mais parce que nous ne sommes plus habitués à regarder le soleil. Oui, mais c'est vrai.
D'accord.
À faire des relevés solaires, il n'a même il veut pas le voir quand il se lève ou qu'il se couche. Donc.
Voilà, donc là, on a expliqué succinctement ce qui est le principe de la géobiologie, c'est-à-dire qu'il y a un lieu qui a une mesure vibratoire en Hertz, qu'avec un certain nombre d'outils que tu as développés ou sur lesquels tu as travaillé ou que tu as connus, on pourra définir que cette mesure correspond à tel type d'énergie.
Oui.
Et à partir de là, il s'est développé toute une série d'outils comme le pendule, comme l'antenne Lécher, je crois, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Oui, exactement.
Qui vont permettre de faire ces mesures.
De localiser, en fait, la mesure, effectivement.
Voilà, d'accord. Alors, ayant connaissance de loin la géobiologie, on parle ensuite de ligne d'Armand, c'est quoi ? Quel est le lien avec ce que tu nous as dit jusqu'à présent ?
Bon, alors d'abord, je vais faire une petite mise au point, toute simple. Dire simplement que je n'ai j'ai jamais pratiqué la géobiologie en tant que géobiologie, puisque j'ai surtout fabriqué du matériel permettant d'accéder à des paramètres de géobiologie. C'est ça surtout. Ouais. Voilà. Je vois que c'est toujours en matière de géobiologie, on est toujours dans la confusion pour beaucoup de choses. Et le sujet que tu soulèves, là, en me parlant des réseaux, bien entendu, les réseaux, les lignes Hartmann-Perret, il faut savoir que là, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, qui ont cherché, et qui cherchent toujours, d'ailleurs, de parenthèse, qui ont cherché. Et ces caractéristiques particulières qui concernent la Terre sont encore mal définies. On n'a pas encore tout trouvé là-dedans. On est très loin.
Voilà. C'est pour ça que tu insistes sur le fait qu'on peut mesurer un certain nombre de valeurs. Voilà. Mais de là, en faire un système systématique, de l'utiliser systématiquement pour dire, mais ça veut dire qu'il y a tant d'énergie là, que cette énergie est bonne, que cette énergie est mauvaise, etc. Donc il y a toute une série. Raymond, on va utiliser la troisième partie pour terminer quand même ça. On fait notre deuxième pause, qui va être un morceau d'un de mes musiciens préférés, qui s'appelle Charlie Rouse, que je vous laisse découvrir. a permis de souffler. Bon, bien sûr, on a continué à discuter avec Raymond là-dessus. Bon, Raymond, le thème de cette émission, c'était la géobiologie. Qu'est-ce que tu as à dire à une personne qui a entendu toute une série de choses sur la géobiologie et qui se dit, bon, j'ai des lumières qui s'allument et qui s'éteignent, j'ai plein de choses qui se passent dans cette maison, je vais faire intervenir un géobiologue. Qu'est-ce que tu lui dis ? Je te laisse partir.
Oui, là, c'est la bonne question. Exactement. Ouais, ouais. Non, c'est la bonne question parce que en matière de géobiologie, la première des choses, je dis pour l'ensemble des géobiologues, ils sont en train d'établir un protocole, tout un travail, effectivement, sur la déontologie, sur la façon dont on doit procéder par rapport aux clients. Bon, c'est une chose, c'est vrai. Mais les problèmes soulevés par la géobiologie sont considérables. Et actuellement, ils ont été amplifiés simplement par la pollution. Une pollution qui est très importante. Par exemple, ce qu'on ne dit jamais, c'est que, ou peu, on a toujours peur de l'énoncer, c'est qu'il y a la pollution électrique, par exemple, la pollution électrique et d'autres pollutions qui sont intervenantes sur ce dont tu évoquais tout à l'heure, ce qu'on appelle les réseaux géobiologiques. Alors, le réseau, c'est quoi ? C'est une maille invisible, je dis bien invisible, voilà, que l'on perçoit par détection avec des antennes spécifiques. Restons-en là, ça suffit. Après, ça, tout le monde peut pratiquer ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est très facile à faire, l'antenne étant accordée sur ces réseaux. Voilà. Seul problème, c'est que ces réseaux sont organisés en fractales, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent à l'infini sur eux-mêmes, aussi bien dans le sens d'expansion que de contraction. Alors, qu'il y en a partout, bien entendu. Et il faut savoir que nous, en tant qu'êtres humains, quand on pénètre on est immergé dans ce système-là, voilà, psychophysique. Hein. Et à ce moment-là, on est intervenant là-dedans et le système est intervenant sur nous. Alors, ça commence à faire beaucoup, simplement parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui dramatise avec les réseaux. Il n'y a pas à dramatiser, c'est vrai, il faut en avoir la connaissance un petit peu plus élargie pour ne pas être plutôt dérangé par ces structures-là. Parce que quand on est dérangé, en fait, il y a les réseaux qui nous dérangent, certes, mais nous aussi, on dérange le réseau. Ouais, c'est un système miroir, en fait, qu'on fait, quand on regarde bien, si on veut analyser simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens ? Alors, d'abord, la plupart du temps, détecter les zones où il y a des activations de réseaux qui sont, on va dire, j'allais pas dire dangereuses, dérangeantes, surtout. Parce que rentrer dangereux, après on rentre dans un système de pensée qui, n'est pas bon. Et elles sont dérangeantes, et par l'étude du bâtiment, la conformation du bâtiment, les dispositions même à l'intérieur du bâtiment, la disposition des meubles, des pièces, peut avoir une interaction là-dessus. Par exemple, dans certains bâtiments, il y a des restrictions, les réseaux se réduisent uniquement par la conformation des pièces, parce qu'elles sont trop petites, par exemple, toi, ou parce qu'il y a du béton avec les ferraillages qui font des systèmes antennes qui viennent perturber à ce moment-là les réseaux. Voilà. Seulement ça, quand certains de ces appartements sont achetés, les acheteurs ne savent pas forcément qu'est-ce qu'il y a. On ne leur a pas dit, quoi. Mais surtout, dans l'ensemble du monde moderne, il y a des précautions qu'on n'a pas prises en ce qui concerne ces choses-là. Et bien, on le voit par la suite. Et donc, ça peut créer de véritables perturbations. Voilà. Et tout à l'heure, quand je parlais rapidement des levées couchées solaires, et qu'on détermine à ce moment-là les quatre points, on crée ce qu'on appelle le fameux quadrilatère solaire. C'est un terme que j'ai créé à l'époque pour ça. Je me suis assez fait critiquer là-dessus. Je le comprends, parce qu'il n'existait pas dans la terminologie classique. Donc ce quadrilatère donne des proportions, c'est là l'intérêt, donne des proportions. Par exemple, ici, nous avons un quadrilatère qui est de ce qu'on appelle de 1,5, le rapport entre le petit côté et le grand côté, ce quadrilatère, c'est 1,5. Donc c'est le quadrilatère. La majorité des bâtiments des grands bâtiments ont été conçus avec ce quadrilatère. Ben, par exemple, je prends Saint-Cernin parce que la grande romane, mais il n'y a pas que Saint-Cernin, il y avait d'autres bâtiments qui ont été conçus comme ça, Saint-Bertrand-de-Comminges et ainsi de suite. Tous ces lieux ont, à un moment donné, le quadrilatère qui a été placé d'une certaine façon pour bonifier le lieu et le faire, on va dire, monter en vibration, comme tu le disais tout à l'heure.
D'accord. Voilà.
Et ce n'est pas au hasard, hein. C'est vraiment quelque chose qui a été maturé par des tas de civilisations, y compris au temps du néolithique. J'avais relevé il y a 2 ans un cromlech dans le Lot, justement, qui était uniquement construit là-dessus.
C'est quoi un cromlech ?
Alors c'est un ensemble de pierres, un système circulaire, si tu veux, de pierres qui ont été posées. Et il y a plusieurs couronnes, si tu veux, de murets, des murets en pierre. Voilà. Il y a plusieurs couronnes concentriques comme ça qui constituent ce qu'on appelle un cromlech. Déjà, à cette époque-là, ben, c'est après Brive-la-Gaillarde, les gens avaient compris quelque chose. Mais ils l'avaient compris par la sensibilité, par l'observation. Or, nous, maintenant, on est dans une phase de temps où on n'a pas de temps. Voilà. Or, justement, l'observation demande du temps. D'être posé et de regarder, d'écouter, d'avoir tous les sens, dire en éveil. Maintenant, ici à Esquirol, ce ne sera pas possible au milieu de la place de mettre quelqu'un pour être en observation, en méditation. À moins, si, peut-être un gars très évolué, mais bon, ce sera un peu plus difficile. Quoi. Voilà.
Donc, ce qui veut. Est-ce qu'aujourd'hui, les architectes modernes sont formés avec ce savoir-là ?
Eh bien, il y en a quelques-uns qui travaillent bien, effectivement, qui le font. Oui. Il y en a quelques-uns d'architectes qui ont compris, qui le font. Le précurseur là-dedans, c'était Le Corbusier. Le Corbusier qui avait commencé à déterminer des proportions harmoniques pour l'être humain, y compris pour les bâtiments. À mon sens, il n'a pas terminé son histoire, il n'est pas allé assez loin. Voilà. Mais il a fait déjà un très bon travail, un travail de défrichage. Il a commencé à amener les gens sur une autre voie de compréhension. Rien que pour ça, je la remercie. Voilà.
C'est bien, mais on peut dire que la majorité des architectes construisent sous d'autres contraintes que ces contraintes-là.
Ben, c'est-à-dire, il y en a qui le font, mais effectivement, la majorité ne le fait pas.
Ne le fait pas, voilà. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, il peut y avoir des maisons sur lesquelles, dans lesquelles, eh bien, il y a un certain nombre de problèmes qu'on peut régler en venant... Comment on va dire, en venant équilibrer les fréquences du lieu. Est-ce que tu dirais ça ?
Non, je me méfie des termes, évidemment, tu as raison.
Je cherche. Hein.
Ouais. Alors, le terme harmonisation est très utilisé, si tu veux. On va essayer, en fait, d'intervenir, d'aider le lieu, de comprendre le lieu, de faire de telle sorte que les petites modifications qui seront apportées, ou même grandes modifications, vont contribuer à une meilleure qualité de vie dans le lieu. Voilà.
D'accord.
C'est pour ça. Mais alors, après les techniques sont très différentes suivant les géologues, bien entendu. Là, c'est celui qui fait le meilleur. Voilà.
Oui. Donc, il y a de bons géobiologues et il y en a des moins bons.
Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que d'une certaine façon, il y a toujours des questions qui sont posées auxquelles il n'y a pas de réponse, simplement parce que, c'est difficile d'accès au point de vue, un, de la compréhension, deuxièmement, de l'application. Et c'est la raison pour laquelle, à partir du calcul du quadrilatère solstitial, tel que tu l'as vu, j'ai pu développer toute une technique qui permet, par exemple, de prendre en compte le lieu d'habitation, de l'analyser, voilà, et de trouver à ce moment-là des points particuliers, soit dans l'habitation, soit à l'extérieur de l'habitation, parce que tout compte fait, le terrain autour de l'habitation n'est que le support de l'habitation, et on peut intervenir à partir de là. Et c'est pour ça que les Chinois, puisque tu parlais chinois tout à l'heure, depuis très longtemps, depuis plus de 3500 ans, pratiquaient l'acupuncture des lieux. Les taillis qui piquaient les lieux. Et à ce moment-là, ben c'est toute une technique qui rejoint cette science-là et qui permet comme ça de comprendre qu'en reprenant le schéma de l'habitation, on peut retrouver les points qui lui sont bénéfiques, c'est-à-dire qui vont lui permettre à ce moment-là de monter en vibration ou d'être d'être régulé en énergétique.
Voilà le grand mot, être régulé en énergétique. Donc là, la géobiologie, lorsqu'elle est bien pratiquée, va permettre de mettre en harmonie les gens qui habitent dans un lieu. Et tout ça part de ce que tu as dit au départ, c'est-à-dire une vibration de la Terre qui vient au départ de son mouvement, puis vient d'intervenir les vibrations cosmiques et les propres vibrations internes de la Terre. On va rajouter l'homme qui arrive là-dessus, qui a sa propre vibration, et l'homme qui a créé des tas de choses qui vibrent ou qui a utilisé des vibrations, puisque les ondes existaient depuis toujours, et l'être humain, lui, tu me dis non, les ondes n'existaient pas depuis toujours.
Mais il faut tenir compte d'un fait, c'est que là, nous parlons de l'interaction du soleil avec le lieu, d'accord, les quatre points, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, la Lune.
La Lune, voilà.
On va avoir d'autres paramètres qui vont arriver. Voilà, et ensuite, ça. Les constellations.
Les constellations.
Alors là, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit.
Oui, oui. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. La géobiologie va essayer d'intervenir dans un champ qui est vaste, dans un champ dont on n'est pas capable de tout mesurer encore aujourd'hui, et avec les outils qu'ils ont actuellement, eh bien, il y a des possibilités pour améliorer des vibrations qui seraient défavorables à l'humain qui habite là-dedans. Et tu le disais au début de l'émission.
On entre dans l'étude des formes.
Voilà, ça c'est les formes. Là, pour moi, c'est très clair. Et puis après, tu as dit, l'homme intervient également là-dedans avec ses propres sentiments qui sont d'autres vibrations. Donc on comprend très bien que la colère et la haine n'est pas une vibration très favorable, alors que, comme on dit maintenant, aimez-vous les uns les autres, mais ça, il y a des gens qui ont marché sur l'eau et qui nous l'ont dit il y a plus de 2000 ans, aimez-vous les uns les autres. Donc l'homme intervient pour également donner une qualité à l'endroit où il vit,
ouais.
ou même pour abîmer la qualité de l'endroit où il vit. Et on en est un exemple à l'heure actuelle. Raymond, je te remercie d'avoir essayé de nous éclaircir sur un sujet qui est, on le voit maintenant, complexe. Ça permet de relativiser aussi l'attente qu'on peut avoir d'une intervention en géobiologie. Chacun doit être capable, lorsqu'il fait intervenir un géobiologue, de ressentir après si effectivement le cadre de vie dans lequel il passe ses journées ou ses nuits lui est plus favorable ou moins favorable. Alors, on a une petite tradition à Esprit d'Occitanie, c'est qu'on essaye de permettre aux jeunes de s'ouvrir au maximum et de leur proposer des livres. Alors, moi, j'ai un livre que tu as co-écrit avec Jeanne Bonvin qui s'appelle « Église romane, chemin de lumière », où tu vas réexpliquer ce problème de longitude, latitude, fréquence, et expliquer également comment depuis des millénaires les civilisations qui nous ont précédés ont respecté ces principes-là pour construire des formes, c'est-à-dire construire les bâtiments dans lesquels ils voulaient vivre, respecter l'orientation du lieu et ensuite pouvoir faire d'autres développements qui correspondaient à leur philosophie ou leur religion, ou les deux. Ce livre, je vous le conseille. Il vous permettra, après une première partie technique qui peut paraître à certains moments, je te le dis, un peu rébarbative parce qu'il faut vraiment y vivre dedans, mais il y a une deuxième partie qui est très intéressante, qui vous permet d'aller visiter un certain nombre d'églises, je vais dire, de la région d'Occitanie, comme l'église lunaire solaire d'Orcival. On va trouver toute une série de choses comme ça. La cathédrale Sainte-Cécile, je crois, qui est également à Albi, et de comprendre, il y a Saint-Cernin aussi qui est indiqué, et de comprendre certaines choses, et de ressentir de façon un peu plus subtile le lieu que de tourner dedans sans penser à tout ça. Donc, si vous souhaitez obtenir ce livre, il est en quantité limitée. Je vous rappelle que vous avez mon adresse mail qui s'appelle bapla@gmail.com. Donnez vos coordonnées et ce livre qui coûte 20 euros vous sera retourné après votre envoi. Voilà, je vous rappelle, bapla@gmail.com. Voilà, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Elle était à la technique, Jean-Loup était là. Il a suivi toute cette discussion avec intérêt. Même il y a des moments, il s'est un peu envolé parce que ça l'a amené un peu loin. Mais ce n'est pas grave. Donc, merci à Raymond Montercy. Merci à Jean-Loup Arzac.
Merci de m'avoir reçu.
Et je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine émission.